nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, donner pour quoi, pour qui ? C'était le thème des Conversations Essentielles, groupe de jeunes, qui depuis 2003 met en valeur la quête de sens et d'humanité à la nouvelle génération par le biais de la conversation. Lors de cette conférence sur le don, qui s'est déroulée en décembre 2007 dans un bar cosy de la capitale, plusieurs intervenants de renom ont répondu à l'invitation, l'écrivain prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, Emmanuel Faber, directeur général délégué du groupe Danone, et Didier Pinault-Valenciennes, président de Schneider. Lors de cette soirée, animée par le journaliste Philippe Lefay, écrivain et homme d'affaires, ont donc répondu aux questions de quatre jeunes issus du public sur la gratuité réelle ou non du don, sur l'acte de donner, altruiste ou pas, et la possible coexistence du business et du don. Nous avons sélectionné au cours de cette petite demi-heure les réponses d'Elie Wiesel aux questions d'Aurore, Nestor, Vivien et Henri. Qu'est-ce que le don ? Comment l'écrivain fait-il don de ses connaissances ? Doit-on donner à une œuvre caritative, même lorsque l'on devine des risques de manipulation ? Écoutez Elie Wiesel, il répond sans détour à toutes ces questions avec philosophie.
Elie Wiesel, les notions qui apparaissent, gratuité, accepter ou pas, le don, celui qu'on reçoit, ce qu'on fait pour l'autre, la foi, la spiritualité. Vous, l'écrivain, vous, l'homme d'engagement, comment est-ce que vous entendez la question dans son actualité ? Elle a cette actualité d'un monde dominé par de moins en moins d'interrogations idéales ou idéologiques.
Tout d'abord, le don a un autre sens aussi. On a le don de l'écriture, le don de guérison, le don de compréhension, le don de l'art. C'est un don. Et ce don-là, est-il reçu ? Est-il développé ? Est-il hérité ? En tout cas, c'est un don très individuel qu'on peut partager en transmettant. Quant au don, générosité. La question, bien sûr, se pose, est-ce qu'on est né généreux ? Eh bien, on ne naît pas généreux. Là, on le devient. Je suis écrivain, en effet, enseignant. Et je pense que les deux expriment un besoin de donner. Le professeur, l'enseignant, donne ce qu'il a reçu. L'écrivain raconte ce qu'il a entendu, ce qu'il a vécu. Autrement dit, une expérience qui ne se transmet pas est une expérience stérile, superflue, sauf chez les mystiques. Mais là, le mystique, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui dit, et je le répète pour moi-même et pour lui, mon but et de transformer l'information en connaissance, la connaissance en sensibilité et la sensibilité en engagement.
Et les mystiques, c'est un petit comité. Or, ici, ce soir, nous sommes nombreux. Et comment est-ce que, très prosaïquement, pour des gens qui n'auraient pas cette dimension spirituelle, cette écoute, cette disponibilité-là, comment est-ce qu'on sensibilise à la transmission de votre point de vue ?
Par la lecture, bien sûr. Là, c'est l'écrivain qui parle, après
ouais,
tout.
J'imagine.
Par l'art. Et je dis ça pour Lonsdale, Michael Lonsdale. Mais surtout par le contact. C'est très très simple. Si l'autre existe, j'aime ce qui fait que l'autre soit autre. S'il était moi, je ne m'intéresserais pas du tout. Parce que l'autre n'est pas moi qu'il m'attire. Et parfois me fascine. Et alors, il y a un échange. Et cet échange-là est enrichissant.
Bonjour Aurore, vous allez bien ?
Très bien, merci.
Aurore, que faites-vous ? Que pensez-vous du don ? Et ensuite, on engagera la conversation.
Donc, je m'appelle Aurore. Je travaille depuis 4 ans dans une maison d'édition. Et la question qui est brûlante pour moi, c'est comment réussir à trouver du temps pour justement avoir une vie professionnelle et puis une vie où je puisse donner aussi, mais que ces vies ne soient pas des vies parallèles et qu'elles puissent être unifiées ensemble. Donc c'était vraiment la question du don et du timing. Donc j'ai plein de questions à vous poser sur comment vous arrivez à avoir une vie unifiée sans être complètement débordée et sans trop tomber dans l'activisme forcené. Voilà.
Vivien.
Bonsoir. Donc Vivien, je suis apprenti journaliste et étudiant en histoire. Et pour le don, je trouve très intéressant la façon dont le don peut être un lien social, un échange forcément avec l'autre, et aussi toutes les formes que représente le don, que ce soit le don de la transmission effectivement de la mémoire, donc de la création artistique. Et dernière chose, je suis assez frappé par l'importance, on dit que la société est une société individualiste et est régnée par l'argent. Et j'ai l'impression en même temps que le thème du don et de l'humanitaire n'a jamais été, j'ai une courte vie donc je me trompe peut-être, mais n'a jamais été aussi dans l'air du temps.
Voilà. Nestor, je suis en fait responsable d'une association en banlieue, j'ai travaillé également dans l'hôtellerie, et donc moi j'ai essayé de mettre ce que j'ai dans la balance, c'est-à-dire de travailler avec des jeunes à consolider leurs besoins de culture dans l'association. Par contre, j'ai une question avec le don. Est-ce que le don est vraiment gratuit? Moi, j'ai un problème avec la gratuité du don. Je pense que la question pour moi, si le don est vraiment gratuit, est-ce vraiment la peine de donner?
Henri?
Bonsoir, je m'appelle Henri. Moi, je viens de terminer mes études et je commence à travailler. Donc, une phase un peu de transition où je me pose aussi des questions sur la façon dont je pourrais équilibrer ma vie en sachant que je pense que le don est quelque chose qui devrait y prendre place. Donc, avec un peu comme Aurore, cette question de savoir de l'engagement, mais de l'engagement équilibré de façon à pouvoir donner et à pouvoir aussi se conserver soi-même.
Alors, il y a un travail qui a été fait en amont, donc il y a eu des réunions entre jeunes de l'organisation Conversation Essentielle, avec trois thèmes essentiels qui recouvrent trois dimensions de la question sur le don. Qu'est-ce que le don? Est-ce que le don est gratuit, par exemple? On va poser la question dans une seconde. Le don, un acte d'altruisme, c'est le deuxième aspect des discussions que vous avez eues de préparation. Enfin, évidemment, cette chose de l'individualisme, de l'économie, le business, la société et l'éthique, qui pose la question sur la définition du don. Allez-y. Est-ce que vous voulez poser une question sur la définition du don, ma chère Aurore?
Alors, je m'adresse à Elie Wiesel, parce que vous avez parlé du don de la connaissance, du don de la mémoire. Quand on est un nouveau-né, on est avec un certain nombre de dons. Et vous êtes, il y a quelques années, vous étiez peut-être un nouveau-né. Comment faire pour épanouir ces dons et pour les reconnaître, les repérer? Moi, j'avais un embryon de réponse. Ça serait peut-être justement en discutant avec des gens plus sages, avec cette transmission aussi dont vous parliez. Donc, comment faire pour faire épanouir ces dons, les faire émerger et après pouvoir ensuite les transmettre?
Il y a deux phases. D'abord, recevoir le don et ensuite en faire un don. Donc, le don est double. Exemple, j'ai beaucoup aimé la musique depuis mon enfance. Il fut un temps où vraiment, je voulais devenir chef d'orchestre. Et finalement, je me suis dit, bon, qu'est-ce que moi j'ai à dire comme chef d'orchestre? Je répéterai peut-être les gestes des autres et chanter les chants que je n'ai pas composés. Donc je préférais la philo, en fait, la philosophie. Donc, ce qui m'a attiré dans la philo, c'est les questions. Je l'ai laissé pour ses réponses. Maintenant, le don, c'est quoi? C'est de discerner, le don de discerner ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, ce qui est substance de ce qui est futile. Pour les choses futiles, je ne me bats jamais. Ça ne m'intéresse pas. Que quelqu'un gagne ou ne gagne pas, ce n'est pas mon devoir de décider pour lui ou pour elle. Pour les choses qui ont à voir avec la substance, là je me bats et je me battrai jusqu'au bout. La substance est toujours quelque chose qui est incarné par l'autre. Pour l'autre, je ferai n'importe quoi. Exemple, ce que vous dites, vous, pour les jeunes. Écoutez, à mon âge, je peux vous le dire, ce siècle n'est pas le mien, c'est le vôtre. Moi, j'ai vécu mon siècle. C'est le vôtre. Et si j'enseigne, si j'écris, c'est pour vous que je le fais. Pas pour moi, plus pour moi. Pour les enfants d'aujourd'hui, pour les jeunes d'aujourd'hui, pour, comme on dit, les générations futures. Car si l'expérience que moi j'ai vécue est perdue, alors malheur à nous et malheur à vous.
Je voulais vous demander concrètement, comment faites-vous pour discerner le juste du faux, le...
Comment discerner ? La vérité seule, en fait, est facile à discerner. Parce que la vérité, si elle ne l'est pas, elle n'est pas la vérité. Or, la vérité de l'un peut être le mensonge de l'autre. Mais alors, tout est là. Le rêve de l'un peut devenir le cauchemar de l'autre. Mon espoir peut devenir le désespoir de l'autre. Mais là, c'est une question d'intuition, de sensibilité, et pourquoi ne pas le dire, de générosité. J'accepte la possibilité que l'autre ait raison, toujours.
Elie Wiesel, si vous me permettez de prolonger la question d'Aurore, est-ce qu'il y a des situations qui font que la vérité est plus évidente? Je pense à des situations de guerre, à des situations de haine, qui font que, alors, se révèle plus facilement le choix à faire.
Est-ce que je peux me raconter une histoire?
Je vous en prie.
J'adore les histoires. C'est pas la mienne, c'est
une vraie histoire. Hein, si
non,
vous
c'est une
bien.
Vraie fausse histoire. C'est l'histoire d'Andréev, en fait. Il raconte qu'un jour, en Russie tsariste, il y avait un petit gars qui dit à sa mère, « Tu sais ce que je vais faire quand je grandis ?» Il dit, « Non, je vais trouver la vérité. » « Ah bon, très bien. » « Mais maman dit, le petit, mais c'est quoi la vérité ?»« J'ai peur de la rencontrer, je ne saurais pas que c'est elle. » Ah, dit-elle, la vérité est une jeune femme très belle, extrêmement, des beaux cheveux, des yeux bleus, et des lèvres comme des cerises, et quand elle parle, c'est comme le chant d'un violon. Bon, le petit dit d'accord. Il a 18 ans, il quitte sa mère, il dit au revoir à ses amis, et commence à chercher la vérité. Il va d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Il est déjà très très vieux. Il arrive dans un désert, il se couche l'après-midi, ferme les yeux pour dormir, et tout d'un coup, une apparition. Il ouvre les yeux. Un cri d'effroi s'échappe de ses lèvres. C'est la plus laide des femmes qu'il ait jamais eue. Pas de cheveux, mais quelque chose de sec. Des yeux éteints, lèvres sèches. « Qui êtes-vous ? » Et elle dit, « Tu m'as cherché. »« Mais c'est impossible, dit-il. Ma mère m'a dit que vous êtes belle. » Il dit, « Oh, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. » « Mais madame, dit-il, il faut que je rentre chez moi. Ma mère est morte. Quelques amis sont encore en vie. Qu'est-ce que je dois leur dire ?» Et elle dit, « Fais-moi plaisir. Dis-leur un mensonge. » Moralité quand même. Moralité quand même. La vérité peut être laide, mais elle n'est pas fausse.
Henri puis Nestor.
Quand on n'est pas sûr, à quel moment on prend le risque du don? Et une fois qu'on l'a pris, est-ce qu'on porte la responsabilité de ce que le don est devenu si on s'est trompé? Voilà, est-ce qu'on porte la responsabilité du risque qu'on prend?
Dans la continuité, je voulais savoir, effectivement, ça veut dire, est-ce que ça voudrait dire donc que donner n'est pas en soi quelque chose qui est bien, mais c'est la finalité pour laquelle on donne?
Lorsque dans la rue, il y a un mendiant qui tend la main, et la paume est ouverte, automatiquement, je m'emmène dans la poche et je mets quelque chose dans sa main. Et parfois, on me dit, tu es fou, il va prendre cet argent pour aller se saouler ou en Amérique acheter des drogues. Et ça ne fait rien. Je dis, s'il y a une seule chance, une possibilité sur un million, qu'il ait faim, pourquoi ne pas le prendre, cette possibilité? Donc, je ne suis pas responsable. Je suis responsable de sa fin. Après la guerre, pendant un temps, j'ai connu la faim. Littéralement, la faim. Et un jour, je me promène quelque part dans une rue, et un mendiant qui s'approche de moi et me dit tout simplement, « Monsieur, j'ai faim. » Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, « Monsieur, moi aussi. » Et il m'a souri. Et c'était beau.
Question pour Elie Wiesel, question qui vient de la salle. Et pour le coup, on est toujours dans cette définition du don. Quel est l'engagement le plus essentiel que vous avez pris et en quelles circonstances l'avez-vous pris?
Avant de répondre, une remarque pour vous. Moi, je ne crois pas à la gratuité. Rien n'est gratuit dans la vie, ni en bien, ni en mal, puisque je ne suis pas seul dans le monde. Dès qu'il y a un autre, alors ça laisse une trace. Et je suis responsable de cette trace, et là encore, dans le bien ou dans le mal. Quant à mon effort, en vérité, c'est un effort pour la mémoire. J'ai consacré toute ma vie à cela. J'ai écrit beaucoup, beaucoup de livres, absolument beaucoup de livres. Et pourtant, j'ai l'impression que je n'ai pas commencé encore. Un jour, je commencerai. Et ça, cela dit, presque 50 livres, c'est beaucoup. Mais pourquoi? Parce que je me dis que si cette mémoire dont je porte un fragment en moi-même s'éteint, ce serait une sorte de trahison. Ce serait permettre à l'ennemi de tuer les victimes deux fois. Je n'ai pas pu empêcher la première. Mais je peux empêcher la seconde. Donc c'était cela. Une fois que je dis cela, bien sûr, je veux que cette mémoire devienne un lien. Un lien entre le passé et le présent, et le présent et l'avenir. Ça veut dire, c'est parce que j'ai vu ce que j'ai vu que je me suis engagé afin que nul autre groupe, nation ou personne voit ce que j'ai vu. Voilà. Et tout le reste n'est que commentaire.
Ce que je remarque, hein, vous me permettez cette remarque en tant qu'observateur, c'est que la salle, et vous qui êtes dans la salle, êtes profondément recueillis, en tout cas très attentifs, donc peut-être en situation de don. Mais ce qui émane de chacun des intervenants, c'est beaucoup de spiritualité, beaucoup de travail sur soi, beaucoup de réflexion sur soi. Je prends cette question qui émane de la salle et qui me semble aussi relativiser cette communion dans laquelle nous pouvons donner l'impression d'être. Que peut-on donner à ceux qui ont si peu reçu qu'ils veulent prendre?
Vous posez la question à qui?
À vous, cher monsieur. Donc, autrement dit, la question du don, c'est aussi une question qui peut être sociale, c'est aussi une question qui peut être politique. Quand on fait don aux victimes ou quand on fait don à la plainte des victimes, parfois on peut faire don à la plainte d'une victime du hasard, mais la victime d'une situation sociale n'est pas forcément entendue dans sa demande de don. Donc je me dis que cette question pose toute la question, l'interrogation sur comment est-ce que concrètement, dans une société donnée, à un moment donné de son développement, on peut être avec l'autre, surtout s'il est d'une autre couleur, s'il n'a pas forcément ses papiers, s'il n'est pas forcément dans le bon quartier.
Vous savez, il y a plusieurs étapes et plusieurs phases là-dedans. Pourquoi ? Prenons un musicien qui joue de tout son cœur et de toute son âme. Et dans la salle, il y a d'autres musiciens. Donc il donne à ceux qui ont le sens de la musique. Et dans ce sens-là, c'est un partage et aussi une source d'enrichissement. Mais pratiquement, au sens concret et urgent, et je parle d'urgence, c'est le mot urgence qui convient là. Bien sûr, il faut que je donne à ceux qui n'ont pas ce que j'ai. Ils n'ont pas la liberté, donc il faut que je me batte pour leur liberté. et n'ont pas de pain. Il faut que je me batte pour qu'ils n'aient pas faim. Ils n'ont pas de possibilité d'étudier. Il faut que je construise les écoles pour leurs enfants. Donc, ceux qui n'ont pas, il faut combler ce manque. Car quand quelque part, une personne, un être humain souffre, et je permets à cette souffrance d'agir sur elle-même, et moi je ne fais rien pour la diminuer, c'est cette souffrance qui m'accable et me condamne. Donc, est-ce que je fais donc cela pour moi-même? Ce serait trop facile. Je le fais pour lui, pour elle. Et si il y a une récompense quelque part, c'est très simple. Si cette récompense existe, c'est pour qu'elle permette à d'autres de suivre mon exemple. Autrement dit, on ne peut agir avec son don que par l'exemple.
Aurore ?
Je voulais vous demander... On parle dans une très belle salle du 8e arrondissement du don et de la générosité. Et donc, il y a toujours un décalage. Comment aider quelqu'un alors que nous-mêmes, on est dans une situation confortable, avec aussi des dons qu'on essaye de développer? Comment être en harmonie avec lui et qu'on soit sincère, en fait, avec cette personne qu'on propose d'aider?
Nestor ?
Ce serait encore une autre question. En fait, par rapport aux dons, j'ai une image, c'est dans les années 60, il y avait la guerre au Biafra, et puis il y a eu à la télévision l'appel aux dons. Et l'appel aux dons a été axé sur un seul thème, le génocide. Or, ce mot génocide était calculé, préparé dans les officines donc, de l'Élysée, et donc, à la fin, en regardant, celui qui a mis en fait ce projet dit « Mais nous, on avait bien manipulé la presse pour qu'il y ait des dons. » Parce que c'était très vrai. Et ce que je veux évoquer là, la question que je veux soulever, c'est un peu aussi comment est-ce que donner peut être manipulé.
Élie Wiesel.
Nestor, question. A-t-on le droit de se servir du mal pour faire le bien? C'est que veut dire. A-t-on le droit de culpabiliser quelqu'un pour que ce quelqu'un devienne généreux? C'est ça la question. Or là, on peut dire tout simplement, d'abord, il faut penser à celui qui a besoin de cette aide-là. Quels que soient les motifs, quelles que soient les manipulations possibles, bon, allez-y. L'important, c'est que ce blé arrive là où on en a besoin. Là encore, c'est pareil. Écoutez, il y a des gens, par exemple, qui s'avancent dans les NGOs, dans le travail pour l'humanité, pour la liberté, pour qu'on en parle. J'en connais pas mal. Qui le font uniquement pour avoir de la publicité, tout simplement. Et alors, est-ce que je leur dis, cessez, ne faites rien? Je dis, allez-y, ça vous plaît? Bon, allez, c'est votre problème. Mais le fait est, faites ce que vous devez faire. Aidez ceux qui ont besoin de votre aide.
Vivien ?
Non, je voulais juste savoir, est-ce que ce n'est pas plus utile pour les pays en difficulté, notamment en Afrique, est-ce que ce n'est pas plus utile d'essayer de les aider à se développer, à apprendre à comment faire de l'agriculture ou comment construire des maisons, plutôt que de leur ramener...
La civilisation.
Oui,
la nôtre.
Voilà, déjà la nôtre, et leur amener, je dirais, le pain dans la bouche, leur déposer le riz par terre, et finalement, est-ce qu'ils n'attendent pas plus que ça?
Bien sûr qu'ils attendent plus que ça, mais entre-temps, il y a des gens qui meurent de faim. Vous pensez qu'ils ont le temps pour que les politiciens adoptent des lois, pour qu'il y ait un budget pour venir à leur aide? Mais non, ils n'ont pas le temps, ils meurent. Or, mon devoir, c'est de les sauver de la mort et de l'humiliation.
Henri ?
Monsieur Wiesel, je suis désolé, je vais être peut-être un peu direct, mais quand vous dites qu'on a le droit de faire le mal pour arriver au bien...
Comme Romain Desbois.
J'ai posé la question.
D'accord, parce que moi je me dis que justement pour quelqu'un comme vous qui avait connu tout ce que... Je ne pense pas personnellement que tous les Allemands étaient des gens mauvais. Je pense qu'il y en a certains qui ont agi en conscience. Je me pose la question personnellement de savoir si ça les dédouane d'avoir agi en conscience ou pas, ou si le fait qui est arrivé est plus important que ça. Et à côté de ça, je me dis aussi que la leçon qu'on peut en tirer, c'est peut-être de faire deux fois plus attention quand on fait quelque chose, à se dire qu'il y a quelque chose derrière. Alors je dis pas qu'il faut pas donner quand c'est totalement, quand on le sait, c'est bon. Mais les moments où on se demande, justement en Afrique, dans des situations extrêmement compliquées, de savoir si on n'est pas manipulé par des gens derrière qui veulent faire venir des ONG pour telle ou telle raison, etc. Enfin, ce jeu.
Une question très, très, très lourde. Premièrement, je ne crois pas à la culpabilité collective. Un point, c'est tout. Jamais. Je n'ai jamais cru. Seuls les coupables sont coupables. Je le répète, je le dis de nouveau parce que ça se sache. Les enfants des tueurs ne sont pas des tueurs. Ils sont des enfants. Bon.
Le tueur, qui, pas forcément le tueur, mais celui qui a donné la munition au tueur parce qu'il pensait bien faire.
Coupable, qu'est-ce que c'est que ça ? Aider, assister à quelqu'un à tuer d'autres, bien sûr, c'est coupable.
Et celui qui a mis son bulletin dans l'urne qui a fait élire Hitler, enfin je suis désolé, où est la limite ?
Non, attention, Hitler, c'était en 1933, c'était avant. Donc ceux qui ont voté pour Hitler, bien sûr, j'ai aucun respect pour eux, vous imaginez. Mais quand même à l'époque, c'était des élections démocratiques. Donc... voter pour Hitler à l'époque, c'était voter contre la faim, contre le chômage et contre l'humiliation. Le problème, c'était que le peuple allemand a été humilié par les vainqueurs. Et c'était une erreur. On n'humilie pas un peuple tout entier. Et le traité de Versailles était humiliant. Il n'aurait pas dû le faire. Donc le vote pour Hitler était contre le traité de Versailles. Mais plus tard, quand il y avait les SS, les camps de concentration, les camps de la mort et les SS, bien sûr, tous ceux qui ont participé de quelque façon que ce soit étaient coupables. Eux, mais pas leurs enfants.
Je t'appelle, mais la personne qui était à côté, Dieu sait si je me demande ce que j'aurais fait à la place, la personne qui a vu passer un convoi de prisonniers qui n'a rien fait.
Je n'aurais pas voulu être à sa place. Après. Parce que ceux qui ont vu les convois et n'ont rien fait pour les arrêter, ceux qui ont vu et qui ont participé donc passivement ou activement, bien sûr, ils sont à mes yeux moralement coupables et même légalement coupables.
Vous venez d'entendre Elie Wiesel, écrivain journaliste prix Nobel de la paix. Il s'exprimait face à un public de jeunes issus des conversations essentielles sur la question du don. C'était en décembre 2007. Pour plus d'informations sur les prochaines conférences des conversations essentielles, connectez-vous au www.conversationsessentielles.com. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles émissions. Thank you.